15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Anne Le Gall.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Comment profiter de l'été? Comment prendre soin de son corps et de sa tête? Je suis ravie de vous accompagner jusqu'à 16h pour évoquer toutes ces questions. À mes côtés, dans ce studio, on retrouve aussi le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Bonjour Damien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous allez juste avant 16h nous donner des conseils en sexologie. Et avec vous, nous allons aussi parler de santé au quotidien.
Bah oui, côté sexo, on va se demander en fin d'émission comment prendre soin de sa libido. Et dans les petits bobos de l'été, nous verrons l'importance de la vitamine D.
Et notre dossier du jour est aujourd'hui consacré à la santé de notre mémoire. La mémoire nous permet de nous situer dans le temps, dans l'espace, de créer des relations sociales. Sans elle, impossible de faire des projets, de prendre des décisions, ni même de faire ses courses ou conduire une voiture. Et pourtant, parfois les trous de mémoire apparaissent avec l'âge. Alors, à partir de quand faut-il s'en inquiéter? Comment préserver sa mémoire le plus longtemps possible? Pour en parler, nous sommes avec le docteur Stéphane Eppelbaum, neurologue à l'Institut de la mémoire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et comme il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes habitudes, à 15h40, nous retrouverons les trois conseils d'un expert pour améliorer nos modes de vie. Aujourd'hui, nous serons en ligne avec la psychologue et diététicienne Laurence Aura qui nous donnera trois clés, trois pistes pour trouver enfin son poids idéal. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour son rendez-vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h.
Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et l'on démarre comme tous les jours par quelques conseils pratiques pour cet été, Damien Mascret.
Oui, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la vitamine D est d'une importance particulière. Alors, toutes les vitamines, bien sûr, sont importantes, et la vitamine D en est une, mais elle a une particularité, c'est qu'elle est synthétisée sous la peau, sous l'effet des rayons du soleil. Si vous n'avez pas d'UV, non.
Et on en a peut-être un peu manqué, du coup, cette année, du confinement.
On en a manqué, ça, c'est sûr, même si on a recommandé à tout le monde de s'exposer un peu au soleil. Mais c'est quand même tellement important que même l'Académie de médecine, le 22 mai, dans un communiqué, a rappelé qu'il fallait, attention, ne pas être carencé en vitamine D parce que ça joue aussi un rôle dans le système immunitaire. Et donc, l'Académie a invité tout le monde, finalement, enfin toutes les personnes, à prendre des suppléments alimentaires car c'est l'autre source de la vitamine D. Et s'il n'y a pas le soleil, c'est l'alimentation ou les suppléments qui permettent de compenser les carences éventuelles.
Alors, vous parlez du rôle dans le système immunitaire, mais ce n'est pas le rôle principal de la vitamine D, je crois.
Non, bien sûr, la vitamine D joue un rôle essentiel avec le calcium dans la santé osseuse. C'est vrai qu'on pense toujours au calcium pour les os. Et mais en fait, non, la vitamine D va permettre l'absorption du calcium dans l'intestin et elle va aussi permettre la fixation du calcium dans l'os. C'est pour ça d'ailleurs que l'excès, par contre, de vitamine D n'est pas bon parce que là, ça peut favoriser la formation des calculs rénaux. Donc, il faut faire attention. En revanche, le docteur Jean-Paul Curté le rappelle dans son traité de nutrithérapie, une supplémentation en calcium et vitamine D diminue les fractures, la fréquence des fractures du col du fémur. Donc, c'est intéressant chez les seniors. Et puis, globalement, chez l'adulte, il faut savoir aussi que la carence en vitamine D peut entraîner l'ostéomalacie. C'est une maladie qui se caractérise par des douleurs osseuses persistantes et des faiblesses musculaires.
Et la vitamine D, on la donne aussi aux enfants quand ils sont tout petits sous forme de gouttes.
Exactement, parce que même avec une diversification bien menée, avec une bonne tolérance des aliments introduits dans l'alimentation progressivement, ça ne couvre pas les besoins en vitamine D des tout petits, en particulier en période de croissance, entre 4 mois et 18 mois. Les enfants qui n'auraient pas d'apport en vitamine D sont exposés au rachitisme. Vous savez, c'est ces enfants qui sont petits, qui ont des os qui sont moins denses, qui se déforment, ça donne des jambes très arquées, des déformations de la colonne vertébrale. Puis il y a d'autres troubles. Il y a une dentition incomplète, un retard psychomoteur, une faiblesse musculaire. Alors, on voit ça, bien sûr, en cas de carence alimentaire, chez les sujets, notamment à peau noire, qui vont justement moins synthétiser sous l'effet du soleil la vitamine D, ou les personnes confinées, on vient d'en parler. Et c'est pour ça que là, la supplémentation est importante. Mais encore une fois, pour les plus grands et les adultes, l'exposition au soleil, ne serait-ce que 20 minutes par jour, ou même 3 fois par semaine, allez, le visage et les avant-bras, ça suffit à fabriquer de la vitamine D.
Alors à propos du soleil justement, on a une question de Sarah.
Le soleil, on dit souvent que le soleil, la vitamine D, il suffit d'un mois de soleil. Est-ce que ça peut être quantifié? Est-ce qu'en prenant le soleil un mois l'été, ça suffit à se recharger en vitamine D pour toute une année?
Alors c'est vrai qu'on fait des grosses réserves quand on s'expose comme ça au soleil intensément. Mais c'est justement ce que ne veut pas l'Académie de médecine. Déjà en 2012, elle préconisait plutôt en cas de déficit une supplémentation orale, surtout pour ne pas conduire les sujets concernés par des carences. Je cite l'Académie de médecine à allonger leur exposition solaire ou recourir à des cabines de bronzage dont on connaît le rôle majeur dans la survenue des cancers cutanés. Mais bien sûr, il ne faut pas attendre d'être carencé pour veiller à ses apports en vitamine D.
Merci beaucoup pour tous ces conseils, Damien Mascret.
Europe 1.
À suivre dans cette émission, le dossier du jour consacré à la santé de notre mémoire. Comment fonctionne-t-elle? La mémoire auditive est-elle aussi puissante que la mémoire visuelle? Pourquoi avons-nous parfois des mots sur le bout de la langue et qui ne sortent pas? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, le docteur Stéphane Eppelbaum, neurologue à l'Institut de la mémoire et chercheur à l'Institut du cerveau à Paris. A tout de suite.
Anne Le Gall sur Europe 1.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. À mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, et notre invité du jour avec qui nous allons évoquer la complexité et la bonne santé de notre mémoire. Bonjour Stéphane Eppelbaum.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc neurologue à l'Institut de la mémoire à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Nous allons, grâce à vous, mieux comprendre le fonctionnement de notre mémoire. Alors, on vous prévient, dans la première partie, toutes les questions vont commencer par « pourquoi ?».
Parfait.
Sauf la première, qui va commencer par « est-ce que ?». Alors, première question, il y a un conseil qu'on peut lire dans à peu près tous les manuels sur la mémoire et sur la façon de retenir ses leçons. Faites confiance, faites appel à votre mémoire dominante, donc soit visuelle, soit auditive, soit proprioceptive. Alors, est-ce qu'on a tous une mémoire dominante? Comment on la reconnaît et à quoi elle correspond?
Je pense que chaque personne développe au cours de sa vie des stratégies de mémorisation qui sont un petit peu différentes, qui pour une part sont liées à l'inné, c'est-à-dire à notre patrimoine génétique. Et de la même façon que certains sont grands, d'autres sont petits, et bien certains ont une bonne mémoire visuelle, d'autres une meilleure mémoire auditive ou proprioceptive, c'est-à-dire grâce au toucher,
au contact,
au mouvement. Et ensuite, cela dépend également des expériences au cours de la vie. Par exemple, une personne qui sera très tôt inscrite à un cours de musique va peut-être plutôt développer une mémoire auditive, tandis qu'une personne qui va être au contraire très sportive va avoir une très bonne mémoire proprioceptive, par exemple.
Et comment on fait pour savoir quelle est notre mémoire dominante, celle sur laquelle on peut s'appuyer justement pour retenir les choses?
Je pense que la façon la plus simple de s'en rendre compte, c'est par essai-erreur. C'est-à-dire que assez rapidement, quand on va avoir des souvenirs à mémoriser que l'on souhaite mémoriser, comme par exemple des leçons, des poèmes, eh bien, il faut essayer différentes stratégies. Il faut que les parents fassent essayer à leurs enfants différentes stratégies, sachant qu'il y a quand même des stratégies qui sont, qu'on ne peut pas éviter, notamment la répétition. La répétition est indispensable, répétition à haute voix, également l'association d'idées, très importante pour bien mémoriser, c'est-à-dire essayer de faire intervenir différentes parties du cerveau.
Damien Mascret.
Oui, et pourquoi les enfants parfois ont besoin de bouger? Justement, je peux vous parler des récitations. Je pense effectivement aux enfants qu'on voit bouger dans tous les sens, prendre des positions pas possibles quand ils apprennent leur récitation.
Je pense que les enfants ont des difficultés d'attention. Ils n'ont pas encore un système neurologique très développé, un cerveau mature. Et donc, pour eux, c'est un effort très important de focaliser leur attention durablement pendant le temps nécessaire à l'apprentissage, par exemple, d'une poésie. Et donc, le trop-plein d'énergie va se révéler par des mouvements comme ça, un peu désordonnés. Mais c'est vrai qu'on peut associer certains mouvements et la mémorisation. Par exemple, les philosophes grecs avaient pour habitude de mémoriser leurs discours en marchant dans l'agora. Et c'est vrai qu'il y a des liens très étroits entre marche et mémoire, notamment pour des raisons de fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que le GPS du cerveau, qui est situé dans la partie interne, intérieure, le repli du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, est également impliqué dans la mémorisation. Et donc, le fait d'activer ce GPS par une marche, par exemple, et de voir son environnement, pourrait permettre de mémoriser un petit peu plus facilement.
Donc, on peut mémoriser une leçon en marchant, on peut la mémoriser si on a une mémoire visuelle avec des arborescences, le mind mapping.
Tout à fait, oui.
Et si on a une mémoire auditive, c'est quoi? On écoute,
si on
enregistre
auditive,
la leçon et
voilà,
on l'écoute?
Voilà, tout à fait. Il faut passer par une audition de la chose dont on veut se souvenir. Par exemple, un enregistrement, mais ça peut aussi très bien être ce qu'on appelle la boucle auditivo-phonologique, c'est-à-dire se répéter verbalement la leçon à apprendre et on s'entend soi-même répéter cette leçon et uniquement en faisant ça, eh bien, ça va favoriser les processus de mémorisation.
Voilà, on dit leçon, ça peut être liste de courses, ça peut être plein de choses. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que le chiffre 7, a priori, se retient mieux que les autres. Donc, une liste de courses avec 7 ingrédients, c'est plus facile à retenir. Pourquoi ?
Non, ça n'est pas tout à fait ça. C'est pas que le chiffre 7 se retient mieux que les autres.
C'est le maximum.
C'est que, voilà, c'est la moyenne de ce que l'on arrive à retenir à court terme. En fait, il y a différents types de mémoire, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, c'est un peu le processeur, si vous voulez, de l'ordinateur. Et ce processeur, chez l'être humain, étonnamment, il ne peut que rarement mémoriser au-delà de cette information à très court terme, c'est-à-dire dans une vingtaine de secondes. Chez certaines personnes, on arrive à monter à 9, 10, 11, parfois un tout petit peu plus, mais rarement beaucoup plus. Et puis, chez certaines personnes qui ont des troubles de l'attention, là, au contraire, ça peut même s'effondrer et on peut avoir du mal à mémoriser 3, 2 informations
Donc,
à la suite.
Il n'y aura que la moitié du numéro de téléphone. Quoi,
exactement. Et il faudrait y revenir une dizaine de fois.
Ouais. Damien Mascret.
Oui, alors justement, pourquoi dit-on que certains ont une bonne mémoire, d'autres une mauvaise mémoire? Et d'ailleurs, est-ce qu'on voit ça dans les tests, des gens qui ont des bonnes ou des mauvaises mémoires?
Oui, bien sûr. Encore une fois, on peut être petit ou grand, gros ou maigre, et on peut avoir une mémoire excellente, comme on peut avoir une mémoire moins bonne. Comment est-ce qu'on s'en rend compte? Eh bien, on fait passer des tests à beaucoup de personnes, de niveaux d'études différents, d'âges différents, et on se rend compte qu'en fonction de cet âge et de ces niveaux d'études, eh bien, on obtient ce que l'on appelle des normes, c'est-à-dire des résultats attendus à des tests de mémoire bien particuliers. Quand on se trouve tout en bas de la norme, hein, dans les 5% les moins performants, eh bien, on dit qu'on a un trouble de la mémoire. Et quand on se trouve tout en haut de la courbe, dite de Gauss, ou la courbe normale, eh bien, on dit qu'on a une excellente mémoire.
Pourquoi est-ce que parfois on a un mot qui bloque, qui reste sur le bout de la langue et on n'arrive pas à s'en souvenir? À quel endroit l'info est-elle bloquée?
Ça, ce n'est pas forcément un trouble de la mémoire, hein. Ça peut arriver à tout le monde. C'est juste qu'il faut aussi être raisonnable quant aux attentes que l'on a vis-à-vis de notre mémoire. C'est très important de ne pas s'alarmer pour des oublis qui peuvent être tout à fait anodins. Mais quand ça bloque, quand on a ce phénomène du mot sur le bout de la langue, En général, c'est un problème de récupération active de l'information, c'est-à-dire que l'information est bien stockée dans le cerveau, elle est là, on sait qu'elle est là, mais on va avoir du mal à déployer une stratégie efficace pour aller chercher ce mot. Et donc, c'est en général un problème de fonctionnement, d'activation du lobe frontal, qui est, je dirais, le chef d'orchestre de notre cerveau et qui a la capacité d'aller chercher dans le lexique qui, lui, est stocké à certains endroits bien particuliers du cerveau, le mot cible, et qui va parfois trouver des mots d'approche ou trouver des périphrases.
Et comment on fait dans ce cas-là? On passe à autre chose ou il faut s'acharner un petit peu?
Je pense que le mieux, c'est de réussir à se détendre, à souffler un moment, et en général, ça revient quelques instants après. Ouais.
On reste ensemble, Dr Stéphane Eppelbaum. Dans un instant, nous continuons de voir avec vous comment prendre soin de notre mémoire.
Europe 1.
À partir de quand est-il inquiétant de perdre ses clés ou d'oublier des prénoms? À partir de quand peut-on perdre la mémoire avec l'âge? La réponse dans quelques minutes avec notre invité.
Anne Le Gall sur Europe 1.
Sans rendez-vous, c'est votre émission Santé, Bien-être sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. D'où viennent les trous de mémoire? La gym cérébrale est-elle utile? À partir de quand faut-il s'inquiéter quand on oublie des noms ou des rendez-vous? C'est le dossier du jour. Pour en parler, nous sommes en studio avec le docteur Stéphane Eppelbaum, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et en studio également avec le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Docteur Eppelbaum, selon un sondage BVA réalisé à l'occasion du Neurodon, 45% des Français se disent inquiets sur la santé de leur cerveau. Les troubles de la mémoire font évidemment partie de ces préoccupations quand ils avancent en âge. À partir de quel âge est-ce que la mémoire commence à montrer des signes de faiblesse?
Alors malheureusement, c'est vrai qu'au fil du vieillissement, il est quasi inéluctable de commencer à perdre sa mémoire. Ce qui ne veut pas dire qu'on va la perdre forcément dans des proportions qui deviennent gênantes pour la vie quotidienne, ce qui est très important à signaler. C'est-à-dire qu'on peut avoir un petit peu moins de mémoire, mais continuer à très bien fonctionner au quotidien, à réussir à prendre ses médicaments, faire ses courses, gérer ses comptes, utiliser Internet même. Et certaines personnes peuvent, dans des cas assez rares, conserver une bonne mémoire même tout au long de la vie.
Et à partir de quel âge est-ce que ça décline ?
On s'aperçoit que ça décline avant la retraite. À partir de 40 ans, on commence à avoir une mémoire qui décline tout doucement, mais c'est surtout vers 60, 65, 70 ans qu'il y a un déclin plus prononcé.
Damien Mascret ?
Oui, on dit aussi qu'en imagerie cérébrale, on arrive à voir effectivement fonctionner la mémoire d'une certaine façon et que finalement les seniors, à condition qu'on leur laisse un peu plus de temps et peut-être en mobilisant davantage leur cerveau, les différentes zones du cerveau, peuvent avoir les mêmes performances que des jeunes de 20 ou 30 ans, c'est vrai ?
C'est vrai, la plupart des personnes âgées qui n'ont pas de maladie neurologique ont une mémoire qui peut bien fonctionner, moyennant effectivement un certain ralentissement psychique tout de même, hein, qui lui est quasi constant. Ceci étant, ils sont aussi plus vulnérables à des maladies de la mémoire, et donc il est assez fréquent tout de même qu'on observe des troubles de la mémoire avérés chez ces personnes de plus de 65 ans.
Et dans quel contexte les trous de mémoire doivent nous inquiéter ?
Alors, le problème de mémoire, c'est un problème qui est excessivement fréquent. Vous avez parlé de 45% des gens qui s'inquiètent de la santé de leur cerveau. J'ai l'impression que quasi 100% des personnes âgées se plaignent à un moment ou à un autre du fonctionnement de leur mémoire. Après, tous ne vont pas consulter pour cela. Et en fait, se plaindre de sa mémoire n'est pas en soi indicatif d'une maladie de la mémoire. Ce à quoi il faut faire très attention, c'est qu'une personne qui est en train de déclarer une maladie d'Alzheimer, au tout début de cette maladie, elle va se plaindre de sa mémoire, effectivement, mais à ce moment-là, son fonctionnement de mémoire est correct et les personnes de son entourage ne se rendront pas compte que quelque chose ne va pas.
Et elle va se plaindre de quoi,
mais elle
par exemple ?
Plaindra de sa mémoire. Elle dira qu'elle a l'impression que son fonctionnement de mémoire n'est plus aussi performant qu'auparavant. Par contre, au fur et à mesure du temps, quand les lésions de la maladie vont s'installer dans le cerveau, eh bien c'est au contraire une diminution de la perception des troubles et une moindre plainte qui va s'installer, alors qu'à ce moment-là, bien évidemment, les personnes de l'entourage vont être beaucoup plus alarmistes et vont même insister pour que leurs proches aillent consulter un médecin, généraliste, gériatre, neurologue.
Dernier aspect.
Oui, on dit aussi qu'effectivement, à un certain stade dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer, les patients, effectivement, ont tendance à remplir eux-mêmes les blancs, c'est-à-dire on peut penser qu'ils vont mentir et que dire « si, hier j'ai fait ça », etc., parce qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'il y avait hier et que la mémoire remplit les blancs, la mémoire a horreur du vide.
On observe souvent ça, c'est vrai. Par exemple, certains patients ont l'impression qu'on leur vole leur portefeuille ou leur argent ou des objets, tout simplement parce qu'ils les ont égarés. Et en fait, ils vont avoir tendance à rationaliser autour d'un oubli parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que c'est une maladie qui est en train de s'installer. En fait, ils ont une méconnaissance de leur propre trouble que l'on appelle anosognosie.
Une personne sur 10 est concernée par la maladie d'Alzheimer après 65 ans. Il y a d'autres symptômes que les trous de mémoire ?
Il y a également un ralentissement psychique plus important que chez des personnes de même âge qui n'auraient pas cette maladie. Et puis aussi, on peut observer des signes comportementaux un petit peu particuliers, comme par exemple une dépression légère qui surviendrait chez une personne âgée qui n'a jamais eu de dépression au préalable dans sa vie. Ou également une apathie qui n'est pas à confondre avec la dépression, c'est-à-dire le fait d'être moins motivé à faire les choses, de se replier un petit peu sur soi. Mais à la différence de la dépression, il y a une absence de tristesse à ce moment-là ou d'idées noires.
Damien ?
Oui, alors je me souviens que quand j'étais interne dans un secteur maladie d'Alzheimer, j'avais été frappé par un phénomène, c'est que les patients, finalement, ne reconnaissaient pas parfois le visage de leur fils ou de leur fille qui leur rendait visite. Et par contre, au téléphone, ils reconnaissaient la voix et ils leur parlaient, comme si finalement la mémoire auditive était conservée. Comment ça s'explique, ce phénomène ?
Je dirais que la reconnaissance d'un visage est peut-être encore plus complexe que la reconnaissance d'une voix. Ça repose sur une petite région cérébrale qu'on appelle la FFA, Fusiform Face Area, donc c'est une toute petite région et qui est peut-être un petit peu plus vulnérable à la maladie d'Alzheimer. Ceci étant, il faut aussi considérer que la maladie est un petit peu fluctuante dans le temps et qu'à certains moments, les patients peuvent avoir des difficultés à reconnaître le visage d'un de leurs proches. À d'autres moments, ce sera peut-être plus la voix, vous voyez, mais bon, c'est pas quelque chose d'universel. Mais en tout cas, c'est vrai que cette difficulté de reconnaissance des proches est assez commune au cours de la maladie d'Alzheimer et très déstabilisante pour l'entourage.
Pourquoi, alors qu'on a énormément progressé sur la connaissance de la maladie d'Alzheimer, pourquoi est-ce qu'on ne trouve toujours pas de traitement ?
Alors, je mitigerai un petit peu votre propos. Je pense qu'on est en bonne voie pour mettre sur le marché aux États-Unis relativement prochainement un traitement qui s'appelle l'aducanumab, qui est un anticorps contre les lésions cérébrale de la maladie d'Alzheimer qui vise à nettoyer le cerveau de ces lésions.
Donc là, ça stopperait le processus de
la
maladie.
On espère que ça va stopper le processus. En tout cas, ça le ralentirait mieux que les traitements qui sont disponibles aujourd'hui. Mm-hmm. Ce médicament est actuellement en discussion de commercialisation entre le laboratoire Biogen et la FDA, qui est l'agence américaine du médicament. Et donc, on en saura plus d'ici quelques semaines, je pense.
Et vous, vous êtes plutôt optimiste ?
Je suis plutôt confiant parce que je pense qu'il y a d'assez bonnes raisons de croire que ce médicament a effectivement un impact pour ralentir le développement des troubles cognitifs et la perte d'autonomie qu'on observe au cours de la maladie d'Alzheimer.
Damien Mascret ?
Oui, il reste un mystère tout de même, c'est que c'est vrai qu'on observe les phénomènes qui se produisent dans le cerveau avec la maladie d'Alzheimer, mais on n'a toujours pas trouvé quel était vraiment le déclencheur, quelle était la cause de la maladie d'Alzheimer.
Alors, dans 1% des cas, on connaît la cause, puisqu'il y a des formes génétiques de maladie d'Alzheimer, purement génétiques, mais c'est des formes qui sont très rares. Et puis, dans 99% des cas, on ne parle pas à ce moment-là d'une cause bien définie, parce qu'en fait, il y a une multiplicité de facteurs qui interagissent pour engendrer cette maladie. Par exemple, ça peut être des facteurs génétiques, mais qui sont des facteurs plus de susceptibilité que des facteurs causatifs. Il y a également des facteurs environnementaux comme l'éducation ou encore le fait d'avoir eu un traumatisme crânien ou les facteurs de risque vasculaire. Un mauvais sommeil de façon très chronique peut également être délétère pour le cerveau et favoriser peut-être l'émergence d'une maladie d'Alzheimer. Et beaucoup d'autres facteurs encore, comme par exemple la prise de certains médicaments, les benzodiazépines. Donc là, je vous fais une liste à la Prévert, mais vous voyez bien que c'est difficile chez une personne donnée de dire pourquoi elle va déclarer la maladie d'Alzheimer à 85 ans. En fait, c'est une maladie qui résume, si vous voulez, toute l'histoire de la vie d'une personne et qui s'installe à bas bruit sur 15, 20, 25, 30 ans de vie.
Hein, voilà. On va poursuivre cette discussion avec vous, Dr Stéphane Eppelbaum.
Europe 1.
Nous parlons aujourd'hui de notre mémoire dans Sans Rendez-vous. Comment l'entretenir le plus longtemps possible ? Quel est l'impact du stress, du sommeil, du sport sur notre mémoire ? On en parle dans un instant avec notre invité.
Anne Le Gall vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Comment prendre soin de notre mémoire ? C'est la question du jour. On en parle avec le docteur Damien Mascret en studio et notre invité, le docteur Stéphane Eppelbaum, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, on a vu que le vieillissement du cerveau est quelque chose qui inquiète beaucoup de Français. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'on peut faire de la prévention grâce à notre mode de vie. On peut entretenir notre mémoire. On va parler du sommeil, de l'alimentation. Mais alors déjà, est-ce que c'est utile de faire des mots croisés, des sudokus, du sport cérébral, c'est utile, ça fonctionne ?
Je dirais peut-être, c'est une réponse pas forcément très tranchée, mais en tout cas, c'est certain que c'est, comment dire ?
Peut-être que lire, c'est tout aussi efficace, lire, voir des amis, faire
en
une
fait,
activité qu'on aime.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cerveau fonctionne de façon multimodale et que pour le faire travailler, il faut lui proposer de très nombreuses activités et pas rester cantonné à une activité tels que les mots croisés ou les mots fléchés, par exemple, et faire ça en boucle, ça, au contraire, ça aura tendance plutôt à restreindre les capacités de notre cerveau. Et donc, pour le faire fonctionner au mieux, il va falloir lui proposer des activités qui le font travailler dans sa globalité, comme par exemple la lecture, qui est une activité très riche parce qu'elle fait aussi travailler l'imagination. Mmh. Et ça active de très nombreuses zones cérébrales, les zones de l'audition, les zones de la vision, les zones du toucher également, on peut aussi lui proposer à notre cerveau de faire du sport. Étonnamment, le sport est bénéfique pour la mémoire. On pourrait penser que non, c'est bénéfique pour les muscles, c'est bénéfique pour le cœur, mais c'est aussi bénéfique pour le cerveau en réalité, parce qu'on l'oxygène et puis parce qu'on va sécréter tout un tas de médiateurs, de molécules qui agissent pour détendre notre corps et notre esprit. Et ça, c'est très important également. Le stress étant, par contre, un élément très perturbant pour le cerveau qui va bloquer les processus de mémorisation.
Damien Mascret ?
Oui, alors on dit parfois que c'est difficile de savoir, de faire la part entre ce qui est bon dans l'activité de jeu de société, par exemple, entre le jeu lui-même et ce qu'il demande à notre cerveau, et puis le fait d'être avec d'autres personnes et d'interagir, là aussi, est-ce qu'on en sait plus sur les bénéfices de l'interaction sociale ?
Je pense que l'interaction sociale, encore une fois, va faire intervenir de très nombreuses parties du cerveau et va le stimuler en plus avec un aspect qui est très important, qui est l'aspect de plaisir. Interagir avec autrui, c'est provoquer des émotions positives et on sait qu'il existe des liens extrêmement étroits entre émotion et mémorisation. Et d'ailleurs, on peut tous en faire l'expérience. En fait, qu'est-ce qu'on mémorise le mieux ? Ce sont les événements à haute teneur voilà, émotionnelle. Que ce soit dans un sens, d'ailleurs, un grand bonheur, un mariage, une naissance, et parfois aussi dans l'autre sens, avec des éléments traumatisants, et c'est ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique.
L'alimentation, évidemment, joue un rôle également. Est-ce que vous pouvez nous conseiller quelques aliments à mettre dans notre assiette pour favoriser la mémoire ?
Je dirais qu'il n'y a aucun aliment miracle pour avoir une mémoire d'éléphant. Il y a des règles d'hygiène alimentaire classiques. Manger équilibré, le régime méditerranéen, éviter les nourritures trop riches en acides gras insaturés. Et éviter également tout ce qui est alimentation trop sucrée. Mais ça, ce sont conseils généraux. Il n'y a pas d'aliments comme l'huile de noix de coco ou les oméga-3 qui ont démontré, ou le ginkgo biloba, qui ont démontré une efficacité pour stimuler sa mémoire.
Le poisson, non ? On en a beaucoup parlé à un moment.
Oui, mais encore une fois, soit on est très cartésien et on regarde les résultats des études menées chez des milliers d'individus et on analyse ces résultats en voyant que finalement, il n'y a pas tant d'efficacité que ça. Soit on peut quand même prendre ces aliments en espérant qu'ils feront du bien et peut-être, ne serait-ce que par l'effet placebo, on ira un petit peu mieux sur le plan de la mémoire. Oui, c'est possible.
Damien ?
Oui, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le sommeil. Alors c'est vrai qu'on voit des études parfois qui nous disent que le nettoyage du cerveau, et notamment ces fameuses plaques amyloïdes de l'Alzheimer, mais indépendamment de ça, le nettoyage du cerveau se fait la nuit. Est-ce que là aussi, la mémoire subit les méfaits du manque de sommeil ?
Alors là, tout à fait. Et ça, je pense que il y a à la fois des preuves cliniques, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir passé une très mauvaise nuit et on se rend compte le lendemain qu'on fonctionne un peu au radar et que notre mémoire est vraiment dans les choux. Et aussi, il y a une littérature scientifique extrêmement abondante sur sommeil et mémorisation, notamment la première partie du sommeil, dite du sommeil lent profond, est très importante à la fois pour le nettoyage et aussi pour le remodelage du cerveau, puisque le cerveau, à ce moment-là, va faire le tri entre les informations qui sont importantes à mémoriser et à garder le lendemain et toutes les informations auxquelles on a été confronté durant la journée qui, elles, sont jugées comme secondaires, notamment du fait de leur valence émotionnelle pauvre. C'est souvent parce que la valence émotionnelle est pauvre ou parce que
valence,
ça est...
c'est leur poids
leur
émotionnel.
Poids émotionnel, leur valeur émotionnelle. Également parce que il n'y a pas eu de répétition. Ça peut être aussi la brièveté du stimulus qui fait qu'il n'est pas mémorisé. Mais en tout cas, le cerveau va faire le tri durant cette phase de sommeil entre ce qu'il faut mémoriser et ce qu'il faut supprimer.
Donc vous nous invitez à nous coucher tôt. Enfin,
il
pas
faut
trop tard, quoi.
Non seulement se coucher tôt, mais en plus de ça, éviter tout ce qui détraque le sommeil, en particulier la consommation d'alcool, qui est un puissant toxique pour le cerveau et pour le sommeil, et également tout ce qui est écran, lumière bleue, donc télévision bien sûr, mais surtout, écran d'ordinateur, écran de smartphone, écran de tablette, même si aujourd'hui il y a des filtres qui peuvent être mis, mais quand même c'est fortement déconseillé d'utiliser ces appareils avant de s'endormir.
Avant de s'endormir. Mmh. Damien Mascret.
Oui, alors effectivement, on parle aussi des risques finalement qu'il y aurait pour la mémoire à partir du moment où on prend des hypnotiques, des somnifères. Est-ce que là aussi, ça perturbe les processus de mémorisation ?
Eh bien oui, certaines molécules, dont les benzodiazépines, par exemple le Valium ou le Lexomil, le Lisanxia, sont des médicaments qui altèrent le fonctionnement de la mémoire. Alors, quand ils sont pris de façon temporaire dans le temps, ce n'est pas grave. C'est-à-dire, pendant la prise de ces médicaments, d'ailleurs, on aura probablement une mémoire qui fonctionnera un petit peu moins bien que si on ne prenait pas ces médicaments. Mais là où ça devient vraiment problématique, c'est lorsque ces médicaments, qui normalement doivent être pris ponctuellement, commencent à être pris sur la durée. Et à ce moment-là, ça peut provoquer des dommages irréversibles et favoriser la survenue d'une maladie d'Alzheimer.
Vous disiez que la mémoire, c'est qu'on a à un âge avancé, c'est un peu le résumé de notre vie. Ça veut dire que les mauvaises habitudes qu'on a dans son enfance à l'âge adulte, ça se répercute plus tard ?
Vous avez tout à fait raison. La prévention, problème de mémoire et le bien vieillir, ça commence dès la naissance et peut-être même in utero, mais sans vouloir stresser les auditrices enceintes. Ceci étant, je pense que c'est effectivement très important de mettre l'accent là-dessus parce que c'est durant l'enfance que le cerveau est le plus malléable, le plus plastique. Et c'est à ce moment-là qu'il faut capitaliser et nourrir notre cerveau, l'enrichir le plus possible pour le protéger à très long terme, lorsqu'on atteindra un âge avancé.
Damien ?
Oui, on se fait finalement un stock, c'est un petit peu comme, vous savez, la masse osseuse, hein, finalement, qui est fixée très tôt et ensuite qui décline progressivement. Donc tant mieux si elle est fixée de façon importante assez tôt. Et finalement, pour la mémoire, il y a un peu cette idée aussi que si on a pris soin tôt de son cerveau, on en bénéficiera plus tard.
C'est tout à fait vrai. Et en plus, je tiens à souligner qu'à cet âge précoce, le cerveau est également très vulnérable, et notamment aux écrans. Et au smartphone évoqué plus tôt. Et donc, il faut vraiment que les parents prêtent une attention toute particulière à l'utilisation de ces outils technologiques par leurs enfants.
Merci beaucoup, Dr Stéphane Eppelbaum, de nous avoir éclairé sur ce sujet de la mémoire. On rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et chercheur à l'Institut du cerveau.
Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous continue dans un instant avec les trois conseils d'une psychologue diététicienne pour retrouver enfin son poids idéal. Et la chronique sexo de Damien Mascret, on va parler ?
Eh bien, on va voir comment prendre soin de sa libido.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et parce qu'il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes habitudes, tous les jours vers 15h40, nous parlons de psychologie et des petites routines qui peuvent tout changer et améliorer notre bien-être au quotidien. Tous les jours, un expert nous donne ses pistes, ses conseils, ses astuces. Aujourd'hui, c'est une psychologue et diététicienne qui est avec nous. Bonjour Laurence Aura.
Bonjour, bonjour Anne, bonjour Damien.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est vous qui allez nous aider à améliorer nos habitudes quotidiennes, notamment dans notre rapport à notre appétit et à nos kilos. Si on vous demande trois idées pour apprendre à découvrir notre poids idéal, vous nous dites quoi ?
Oh, je vous dis d'abord, de déconstruire des croyances. Bizarrement, hein, je pourrais vous dire, je pourrais vous parler de normes, je pourrais vous parler de chiffres, mais justement non. Ce que je constate, c'est que on associe souvent la question du poids à des normes, notamment le fameux, trop fameux IMC, indice de masse corporelle, qui est calculé, vous savez, en faisant le poids divisé par la taille au carré, en centimètres. Tout le monde le fait, tout le monde le connaît, cet indice. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'une norme, c'est quelque chose qui traduit ce qui existe dans une population, et ça ne prend pas en compte les individualités. D'autant plus que cette norme, en l'occurrence, j'ai dit le poids divisé par la taille au carré, ça ne prend pas en compte l'âge, ça ne prend pas en compte le morphotype, ça ne prend finalement pas la manière dont les masses sont distribuées. Donc on peut très bien être dans une corpulence normale avec cet IMC et se rendre compte que ce corps ne nous convient pas du tout, qu'on ne se sent pas bien, ou au contraire être considéré comme en surpoids ou en sous-poids, et que ce soit parfaitement morphologique et que rien ne puisse bouger à ce niveau-là.
Donc le poids idéal, c'est lequel en fait, pour chacun ?
Ben, Le poids idéal, c'est celui dans lequel chacun se sent au maximum de son énergie, de son tonus, sent que son corps fonctionne bien, lui permet, on a parlé de la mémoire avant, lui permet d'apprendre, de mémoriser, de bouger, de sauter, de rêver, de danser, bref, d'être en pleine possession de ses moyens. C'est ça le poids que je considère comme idéal et qu'on devrait tous considérer comme idéal parce que c'est idéal pour soi. Après, je vous le disais, il faut tenir compte d'un morphotype et parfois ce morphotype, il ne convient pas, il ne plaît pas. Et là, il y a sans doute un petit travail d'acceptation à faire de manière à ne pas se mettre en résistance, en lutte contre, mais en une forme d'acceptation et de faire avec.
D'accord, donc premier conseil, se méfier des diktats et notamment de l'IMC. Deuxième conseil ?
Le corps, il a des besoins et avec l'alimentation, ce qui est bien, c'est qu'on a des besoins qui sont assez clairs, assez évidents. On a la faim pour, qui manifeste le besoin des cellules, des tissus du corps en énergie et pas seulement en énergie parce qu'on a des faims particulières, spécifiques qui appellent certains nutriments, par exemple le calcium. Tiens, j'ai très envie de manger du fromage, très envie de manger un yaourt. C'est peut-être que j'ai besoin de calcium. Je me ferais bien là un steak, c'est peut-être que j'ai besoin de fer. Donc on a des appétits comme ça spécifiques qui sont vraiment extrêmement bien réglés par rapport à, aux besoins du corps. Encore faut-il les écouter. Donc c'est ce que je vous propose, c'est un petit apprentissage de ce qu'est la faim. Et d'abord vous, Anne, ça fait comment la faim ? Quand vous avez faim, ça fait comment ?
J'ai le ventre qui gargouille et je suis de mauvaise humeur, limite agressive.
Voilà, et bien la faim, ça commence souvent par le ventre qui gargouille chez la plupart des gens. En tout cas, ça se passe au niveau de l'estomac. Et c'est tout un tas de symptômes physiques qui sont très, très clairs et très explicites lorsqu'on y prête attention. Et quand on répond à cette faim, pour trouver le rassasiement, c'est pratique aussi parce que le rassasiement, c'est la disparition de cette sensation de faim. C'est-à-dire que quand l'inconfort physique ou psychique, votre mauvaise humeur disparaît, Anne, on sait qu'on vous a nourri suffisamment. Et donc ça veut dire que vous êtes rassasié. Et donc apprendre à reconnaître ces deux indicateurs, c'est apprendre à bien faire fonctionner son corps et à bien le nourrir.
D'accord, donc on écoute ces sensations de faim et le plaisir dans tout ça.
Oui, parce que c'est bien joli, la faim et le rassasiement, mais on ne mange pas que pour ça, on est bien d'accord. On mange aussi parce qu'on aime se faire plaisir, parce qu'on aime partager du plaisir. Là, en plus, on est en plein été. L'été, c'est un temps un peu plus relax. On prend le temps de faire des repas avec des gens qu'on aime, avec la famille, avec des amis. Donc, mon petit truc par rapport à ça, c'est que on oppose souvent les aliments sains avec les aliments les plus gourmands, ceux qui font finalement le plus plaisir. Moi, je vous propose de trouver une place pour ces aliments qui font plaisir. Finalement, un repas, il a besoin d'apporter de l'énergie pour répondre aux besoins du corps. Il a besoin d'apporter de la mastication parce que c'est grâce à la mastication d'abord qu'on va pouvoir informer le cerveau que ça y est, le repas a démarré. Et puis, il a besoin d'apporter du volume parce que c'est aussi grâce à ça que l'estomac va pouvoir dire, grâce à la distension gastrique, va pouvoir dire « j'ai assez mangé ». Et finalement, quand on mange quelque chose qu'on adore, je ne sais pas, une glace, un fondant au chocolat, mais qu'avant, on a fait une salade de tomates, on
apprécie d'autant plus.
Alors, on apprécie d'autant plus et surtout, on lui a trouvé une place à ce fondant au chocolat, à cette glace. On a de la mastication, on a du volume et on a cette fameuse énergie saupoudrée de plaisir.
D'accord, donc on fait attention aux diktats, on écoute sa faim et on fait de la place au plaisir, notamment avec la mastication. Et le docteur Damien Mascret a une question pour vous, Laurent Saura.
Oui, j'ai une petite question subsidiaire. Vous avez parlé de rassasiement. C'est vrai que certains mangent beaucoup parce qu'ils ont peur d'avoir faim, tout simplement. Quels sont les aliments qui rassasient bien ?
Ce sont ceux qui contiennent des fibres et qui justement apportent ce fameux volume dans l'estomac, donc évidemment tous les légumes, les fruits, qui vont nécessiter de la mastication et qui vont nécessiter un vrai travail de l'estomac, ce qu'on lui demande plus beaucoup avec notre alimentation moderne. Donc ça va ralentir la digestion et ça va permettre de ne pas avoir faim très vite. Mais surtout, ça ne sert à rien de chercher à anticiper une faim ultérieure parce que le corps ne sait pas faire ça. Il ne sait pas garder en suspension des aliments, de l'énergie pour plus tard. Il traite, il digère et il aura faim quand il devra avoir faim. Donc il vaut mieux manger à sa faim et accepter qu'une autre faim réarrive, peut-être au moment 4 heures plus tard, au moment du goûter, peut-être un peu tôt dans la soirée. Et ce n'est pas grave du tout, c'était le bon moment pour vous.
Donc on ne dit pas à un enfant, finis ton assiette, sinon tu auras faim ?
Ah ben non, surtout pas. Alors surtout un enfant qui en règle générale sait parfaitement, lui n'a absolument pas besoin qu'on lui réapprenne à trouver sa faim et son rassasiement. Vous savez, un enfant qui mange quelque chose qu'il adore, à la bouche est prêt, il est capable de s'arrêter quand il en a assez. Il n'a plus faim, il n'est pas du tout dans nos stratégies de manger en anticipant, de manger tout ça maintenant parce que, ouf, il y a de la mousse au chocolat. Et après, si ça se trouve, j'en aurai plus pendant 6 mois. Non, non, lui, il mange ce qui lui va bien au moment où il le sent et il s'arrête dès qu'il n'a plus besoin. Donc, on ne force surtout pas les enfants.
Merci beaucoup, Laurence Aura. On rappelle que vous êtes psychologue et diététicienne et votre dernier livre s'intitule « Et si vous trouviez enfin votre poids idéal ?» Il est paru chez Erol.
Europe 1.
Votre émission santé sans rendez-vous continue dans un instant avec la chronique sexo de Damien Mascret. A tout de suite.
Europe 1. Sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être de 15h à 16h. Et dans cette dernière séquence de l'émission, nous parlons intimité et vie affective avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue et aujourd'hui, on parle de libido.
Eh bien oui, la baisse de libido et surtout comment éviter la baisse de libido, parce qu'il y a des moyens. D'abord, à prêter attention à une étape importante qu'on oublie souvent, c'est ce qu'on appelle la transition, c'est-à-dire le passage de la phase non érotique à la phase érotique. C'est ce que le professeur Edison, une américaine, appelle la chorégraphie sexuelle. C'est-à-dire que, voilà, c'est joli. Avant d'entrer dans la danse, il faut inviter son partenaire ou sa partenaire. Et donc, il faut, pour cela, et c'est d'ailleurs la première condition que les femmes mettent en avant pour être proche cette fois-ci, s'approcher de la satisfaction sexuelle, c'est se sentir en connexion avec son partenaire avant même le rapport sexuel, avant même la sexualité. Il faut d'abord être en connexion, une transition qui peut se faire plus ou moins rapidement d'érotique, de non-érotique à érotique. Hein. Mais en tout cas, il faut prêter attention à cette phase de transition.
Et normalement, on arrive à passer en mode érotique ensuite.
Oui, on passe en mode érotique, mais il y a plusieurs conditions à nouveau. Il y a des questions à se poser. La première, c'est est-ce que je me sens désiré ? Parce que si on ne se sent pas désiré, on ne passe pas en mode érotique. Ça veut dire que le partenaire doit non seulement manifester évidemment son désir sexuel, mais surtout en amont de ça, d'autres sentiments, hein, que ça soit l'amour, que ça soit le respect, que ça soit l'affection. En tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la connexion et non pas que le rapport sexuel soit considéré comme acquis. Parce que, bien même dans un couple, on a évidemment le droit de ne pas être consentant, on a le droit de ne pas avoir envie, et on a même le droit de ne pas savoir pourquoi on n'a pas envie. Donc il faut que le partenaire exprime ce désir, et là aussi, là, le regard va jouer son rôle, parce qu'il y a la façon dont on est regardé, et dans certains couples, on s'aperçoit effectivement que le partenaire ne vous regarde plus, alors que dans d'autres couples, ça saute aux yeux, vous voyez les yeux amoureux avec lesquels l'un ou l'autre regarde son partenaire. Et ça, c'est très important. Et puis l'autre question à se poser, c'est quels efforts on fait soi-même pour être désirable ? Parce que là aussi, il faut faire des efforts. On se comporte souvent d'une façon qu'on n'aurait pas osé dans les premiers mois de sa relation. Donc, on prend un petit peu des habitudes de facilité. Donc, il faut faire des efforts.
Pas ça trop veut dire de laisser aller.
Pas de laisser aller physiquement, mais aussi dans le comportement. Effectivement, ça n'a rien de sexy d'être vautré en survêtement sur un canapé. Ou ça peut l'être pour les fans du sportif. Mais en tout cas, vous voyez que la sexualité, ça n'est pas seulement une mécanique des corps, c'est aussi une chimie des émotions d'abord.
Et on peut quand même se demander ce qui se passe au lit.
Oui, bien sûr, c'est le thermomètre de l'excitation, ce qui se passe au lit. Hein, donc, on peut se poser la question. Alors, bien sûr, si vous me dites que finalement, la façon dont se déroule l'acte sexuel vous convient, eh bien, je dirais, il n'y a pas de problème. Par contre, si on se dit que non, finalement, je n'aime pas trop ce qu'on est en train de faire, ou en tout cas, ça ne m'intéresse pas, là, oui, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est le premier pas du changement. Vous avez accepté cette idée qu'il y a un problème et ensuite, bah, il va falloir s'engager dans l'action. Donc, trouver des moyens pour que ça change. Et ça, ça veut dire que vous avez pris votre sexualité en main.
Tout ceci est bien noté. Merci beaucoup, Damien Mascret. Les meilleurs conseils pour votre santé et votre bien-être, on les partage tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1.